Chapitre 11. Les fantômes de la pyramide. La mission Grand Sud avait quitté Versailles depuis près de 3 semaines. Bill envoyait régulièrement des nouvelles rassurantes par pigeon voyageur. Depuis leur départ, la pluie était tombée sans discontinuer. Une bruine permanente qui mouillait avec plus ou moins d'intensité les rares ados qui se hasardaient dehors. Rien ne semblait pouvoir percer l'épaisse couche de nuages gris sur Paris. Bien au contraire, le ciel de ciment paraissait descendre petit à petit et recouvrir les bâtiments et les arbres d'un brouillard de plus en plus dense. Coriolis affirmait que la dépression durerait encore une semaine avant de laisser place à un été ensoleillé. Pour l'instant, on se serait cru en automne, et sous le poids des gouttes, les feuilles des arbres finissaient par tomber, rejoignant dans les flaques les feuilles de choux trempées que les ados abandonnaient après les avoir survolées. C'est dans cette ambiance déprimée que Mordelia avait été réélue reine et le conseil inchangé. L'élection s'était déroulée sans incident, mais pour la première fois de l'histoire du Nouveau Monde, une majorité d'ados n'avait pas voté. La feuille de chou avait pourtant suivi la campagne jour après jour, déployant une incroyable énergie pour rendre l'élection passionnante et motiver les citoyens à se rendre aux urnes. Les explications de cette désaffection étaient multiples, si on se fiait aux commentaires de Constel dans son journal et surtout aux conversations entre ados. Tout d'abord, Mordelia était la seule candidate, ce qui ne rendait pas le suspense quant au résultat du vote insoutenable. Ensuite, beaucoup d'ados hésitaient encore à voter pour la sorcière, même si Eugénor répétait qu'il fallait pardonner. Mais surtout, et c'était l'argument principal de Constel, la plupart se désintéressaient de la politique. Plus ils grandissaient, plus ils se moquaient de qui siégeait au Conseil, du nom des ministres et des débats ouverts au public avant que certaines décisions soient prises, comme l'agrandissement des salles de classe, la construction d'une nouvelle écurie, le développement du parc de micro-éoliennes sur la Seine, ou le percement de tranchées pour régler les problèmes récurrents de toilettes bouchées. À partir du moment où la sécurité du château était assurée, et que les ados du château gagnaient suffisamment de lune à dépenser chaque mois au marché, sans trop se fatiguer entre-temps à travailler, ils se fichaient bien de qui les dirigerait. « Tu aurais peut-être pu te présenter contre Mordelia ?» demanda Zizo. « Et pourquoi pas toi ?» répliqua Alix. « Moi ? J'ai déjà donné. » Ils se tenaient tous les deux sous le toit crevé de la pyramide et observaient la pluie tomber sur le grand hall où les enfants du château avaient passé les 14 premières années de leur vie. Et Zizo, presque 2 ans lui aussi. Des coulées de terre mouillée descendaient de l'escalier du pavillon des singes, recouvrant le marbre d'une épaisse couche de boue. « T'as raison, » concéda Zizo. « Et de toute façon, on a perdu toute popularité. Sabi, Agnel, Akan, toi ou moi. Eugénor n'hésite jamais à rappeler que Solario est mort à cause de nous, et personne ne croira jamais cette histoire de parfum d'immortel qui aurait rendu fou Pou. » Ils se turent un instant, observant avec nostalgie des objets éparpillés par le vent sous la pyramide brisée, des carnets de dessins laissés là par les singes, des manuels de physique trempés, des kimonos d'entraînement maculés de boue, des beaux flottant dans des flaques, des gobelets roses et des pailles écrasées, des emballages de lollipops se déchirer, toute une vie d'avant abandonnée à la hâte dans ce château où ils n'étaient jamais retournés. Toute leur enfance jetée aux 4 vents et à la pluie glacée.
« Oui, »
reconnut Alix, « Eugénor ne commet jamais aucune erreur, et Mordelia non plus depuis qu'ils sont alliés. » Les ados ne l'aiment pas, cette sorcière, mais ils la craignent. Je sais, c'était déjà ainsi au tipi. Alix observa le verre brisé sous ses pieds, les bancs fendus, les livres moisis baignant dans des mares d'eau croupie. Et pourtant, fit-elle, tout ça, tout ce gâchis, c'est son œuvre. Pas complètement, nuança Zizo. Vous auriez pu tout réparer.
« Vous ?»
Alix le fixa avec des yeux étonnés. Il était rare qu'ils évoquent leurs anciennes tribus du château et du tipi. Ils appartenaient tous au même camp désormais, celui de Versailles. Leur vieille rivalité avait été remplacée par celle entre eux et les autres ados du Nouveau Monde, qu'il s'agisse des Prémas ou des ethnies nouvelles. même la grande bataille entre leurs deux tribus dans la cour carrée paraissait n'avoir jamais existé ou n'avoir été qu'une bagarre de cour de récré. « Allez !» se secoua Alix. « On n'est pas là pour ruminer le passé, mais pour trouver ce fameux labo, Utopie, et découvrir ce que signifie ce mot, Néo. « Au plus profond de la terre et au plus haut de la lumière !» déclama-t-elle. « L'Empire de la mort !» D'après Luponera, c'est ce que lui répétait sans cesse son papa. « Au plus haut de la lumière, » fit Zizo, « ça pourrait être le sommet de la pyramide de verre, enfin, du temps de pierre sol, et au plus profond de la terre, renvoyé à l'une des caves du château, sous la pyramide. Ça colle parfaitement. »
« Sauf qu'on cherche depuis 3 jours et qu'on n'a rien trouvé. » Et on n'a pas la moindre idée de ce que signifient les 4 bâtons tracés sur la lettre de Marie-Lune.
« On va trouver, » s'encouragea Zizo.
Il commença à grimper avec prudence l'escalier du pavillon des singes, transformé en patinoire par l'eau sale qui coulait en cascade de marche en marche. Alix le suivit, moins enthousiaste que lui.
« Au plus haut de la lumière, » répétait-elle, « ça pourrait correspondre à n'importe quoi. » Même au sommet du tipi. J'ai grandi ici, dans ce château. Si un truc aussi important que ce laboratoire Utopie y avait été dissimulé, on l'aurait forcément remarqué.
Zizo entrait dans la rotonde d'Apollon.
Il faut bien commencer à chercher quelque part.
Devant eux, la salle ronde, où tous les enfants se réunissaient jadis, était méconnaissable. Le grand écran blanc était déchiré sur toute sa longueur. Tel un sinistre cinéma pour fantômes invisibles, assis sur les dizaines de chaises brisées. Des excréments de rats et de lapins jonchaient le sol en damier blanc et noir, rendant l'odeur de pourriture insupportable.
« La première fois, » pensa Zizo, « j'avais trouvé ce lieu tellement féerique. »
Il prit la main d'Alix, pas seulement pour éviter de déraper sur les pavés mouillés.
« Tu te souviens ?»
Ils échangèrent un sourire mélancolique.
« De quoi ?» fit l'ancienne reine. « Qu'on allait te manger en brochette avec des oignons grillés ? Que tu répétais sans cesse « Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mon petit crapaud ?» Ou de tes yeux hallucinés par tout ce que tu découvrais ?»
Ils s'engagèrent dans la galerie d'Apollon. La verrière du toit était elle aussi percée sur toute sa longueur, et les grands tableaux qu'ils n'avaient pas pu déménager à Versailles avaient été délavés par la pluie et le temps, transformant les toiles de la Renaissance de Raphaël ou Michel-Ange en traces colorées, dégoulinantes, vaguement impressionnistes.
« On devait protéger toutes ces œuvres, » soupira Alix.
« C'était la mission que les adultes nous avaient confiée, sauvegarder ces trésors de l'humanité. Tout le monde s'en fiche maintenant, à part quelques singes peut-être. »
Ils visitèrent encore le réfectoire dévasté de la salle des 7 cheminées, les dortoirs, les salles de classe toutes abandonnées au froid, à l'humidité, aux moisissures et aux animaux errants, avant de revenir sous le toit de la pyramide brisée. Malgré tout le talent des savants, ils savaient que jamais ce toit de verre ne pourrait être réparé. Le regard de Zizo s'arrêta sur leur droite, en direction de la salle des statues géantes. Les Achilles et les Hercules de marbre, couverts de mousse et de feuilles mouillées, continuaient pour l'éternité d'étrangler des serpents ou de terrasser des dragons.
« C'est ici, » murmura Zizo, « que je t'ai vu pour la première fois. »
Les fenêtres donnant sur la rue étaient toutes cassées.
« Il n'y avait qu'une seule petite lucarne ouverte, » ajouta Alix, « juste assez pour te faufiler, mon espion. » « Et me sauver. »«
Le plus beau jour de ma vie, » chuchota Zizo.
Il attira Alix contre lui. Ils s'embrassèrent, indifférents à la pluie qui tombait sous le toit crevé.
« Bon, » finit par se motiver Zizo. « On trouve ce foutu labo ?»«
Il n'est pas là, » assura Alix, « j'en suis certaine. Et on n'avancera pas tant qu'on n'aura pas trouvé le rapport entre les 4 traits et le reste, le plus profond de la terre et le plus haut de la lumière. »
« Un peu de travaux pratiques ?» proposa Zizo.
Il se pencha vers les 4 baux abandonnés sur le sol trempé pour les ramasser.
Quelle figure géométrique peut-on bien fabriquer avec ces quatre bâtons? Ah, votre Marie-Lune était vraiment tordue, non?
Si ça se trouve, dit Alix, la solution est aussi simple que celle des hiéroglyphes dessinés sur le cahier de Piersol.
Aussi simple, fit semblant de se vexer Zizo. Tous les savants ont travaillé là-dessus pendant 6 mois et j'ai été le seul à la déchiffrer, avec Chrysante.
Alix grimaça à l'évocation de la fille à la poupée.
Alors vas-y, petit génie, tu proposes quoi avec tes 4 bâtons?
Zizo se concentra longuement, puis se frappa le front et finit par disposer au sol les 4 baux en carré.
Waouh ! Applaudit Alix. Mais tu es un vrai petit surdoué, je n'y avais pas pensé.
Je peux encore faire mieux, affirma Zizo en se prenant au jeu.
Il disposa les 4 baux en losange.
Génial ! L'encouragea Alix en exagérant son admiration. Et après, tu crois que tu es capable de me faire une croix ? Ou, plus dur, un dièse, pourquoi pas ?
Ne te moque pas, je...
Zizo s'arrêta soudain.
Oh, aide-moi !
Il venait de s'accroupir. Il attrapa 2 baux dans sa main.
Fais comme moi !
Alix s'agenouilla à côté de lui, dans les flaques d'eau. Ils essayèrent de faire tenir debout les 4 baux, en les écartant 1 mètre, tout en les penchant pour qu'ils se rejoignent au sommet. Alix avait compris.
« Tu vois ce que je vois ?» fit Zizo, triomphant.
« Une pyramide !»
dit Alix.
« C'est ici ! C'est forcément ici !»
Alix s'apprêtait à embrasser à nouveau Zizo. Il l'avait bien mérité, quand elle eut l'impression qu'au-dessus d'eux, la terre vibrait. Un troupeau d'éléphants passait. C'est du moins la première impression qu'elle eut, même si elle n'avait bien entendu jamais vu d'éléphant. L'instant suivant, elle aperçut par la verrière brisée 30aine d'ados qui marchaient à pas pressés. La plupart se protégeaient sous des parapluies ou de grandes capes en plastique.
« Ils vont chercher des champignons ?» demanda Zizo, étonné qu'un si grand nombre de promeneurs soient dehors par un temps aussi mauvais.
Alix mit seulement quelques secondes à réaliser.
« Non ! Ils vont tous à la Sorbonne passer le CAPE et espérer être promus. C'est le jour le plus important de leur vie. »